Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous retrouvons donc la dernière partie, en cette fin de semaine de confinement, du texte de Yves Elouette, Falroun. Et il y a quelque chose maintenant qui s'enfle dans la mansarde, se gonfle comme un verre de lampe. Quelque chose de transparent, une sorte de bulle sortant du tube d'un souffleur de verre. Oui, on pourrait dire une bulle. Mais je le répète, il y a du verre de lampe là-dedans, avec un anévrisme, et que l'éclatement menace. Une manière de ballon irisé, et, visible à l'intérieur, comme un trois-mâts dans une bouteille, le comptoir d'un débit de boisson qui lui rappelle il ne sait trop quoi de déjà ancien. Dans un lieu de la région ou peut-être même du pays. C'est ça, une petite localité pas encore tout à fait oubliée où l'on trouve. C'est possible, mais ça n'est pas sûr. Une fontaine verte au centre d'une place quadrangulaire. Le nombril de la place. La place sous les nuages. Langue de coton derrière lesquelles se cache le grand-père de tous les dieux Hopi de la Mesa Verde. Des amours joufflues et fessues soutiennent une vasque au bord ponctué de petites têtes de lion. À l'intérieur s'est incrusté un phare de poussière, mêlé de papier d'emballage, de confiserie tassée entre index et pouce, malaxé de façon à former des petites boulettes informes. L'œil se promène le long des gouttières sur lesquelles pèse le ciel de la canicule. Il est parcouru de fuseaux blancs qui semblent d'abord immobiles, tant l'air est calme. C'est comme j'ai dit, quelques jours d'août. À l'intérieur de la bulle se rassemblent ou se composent tous les organismes là d'un comptoir de café vaguement plongé dans la pénombre. On n'entend pas les voix des buveurs. Et puis le temps se tord. Et de nouveau, il ne fait pas bien chaud dans la mansarde. Et Falroun, en dépit des couvertures, grelotte et grelotte. Et même ses dents font entendre ce craquettement caractéristique des castagnettes maniées par une danseuse aux cheveux laqués, un accroche-cœur s'enroulant sur chaque joue, une rose à la tempe au-dessus de l'oreille, non loin du peigne d'écailles et de strass fichés dans le chignon. La peau est mate, mais fardée d'une crème et d'une poudre claire, ménageant un disque ponceau aux pommettes. Une main s'appuie momentanément à la taille, tandis que l'autre est levée au bout du bras élégamment courbé le long de la tête, ce qui a pour effet de rapprocher et de hausser les seins dans le corsage échancré cornin volant, frère de celui qui conclut le bas de la jupe aux plis évasés, perforés de petites étoiles en broderie. et la crêtant de cette mitraillade de bois. Elle scande le mouvement nerveux des jambes gainées de noir et des pieds prisonniers de bottines à très hauts talons rouges. Oui, tout cela est fort bien. En somme, il glaglate dur, le vieux Falroun. Il lui vient une idée de montagne blanche traversée d'ombre, abritant de minuscules villages. Et tout là-haut se déroule une écharpe, faite de la neige du sommet, une poudre légère, légère. Elle se tord et se dissipe dans le ciel aussi bleu qu'il est possible, alors que la montagne elle-même émet toutes sortes de bruits avec son ventre de glace et de pierre, de comment déjà moraine. Le choc répété de la porte que le vent malmène, je l'entends. La peur à ras de terre remue, ça grince. Les sureaux sont fouettés parmi le trèfle et la luzerne. Les arbres sont à la limite de l'asphyxie. Chaque branche, chaque feuille devenant la branche d'un poumon recouverte de sa viande légère et rosâtre ou brunâtre, appelée mou, et que l'on sert de préférence, vu la modicité de son prix, à la queue verticale du chat domestique s'approchant pleine de confiance et de convoitise et s'élongeant contre le pied de la table ou contre votre propre jambe, nue ou revêtue d'un bas, voire d'une chaussette, ou encore recouverte par l'étoffe d'un pantalon. J'entends le choc répété de la porte. Ou aussi bien tel vieillard dont l'ultime plaisir sensuel s'affermit dans la nourriture, fut-elle de médiocre qualité, du moment qu'elle est abondante. Oui, j'ai connu ça. La porte revient inlassablement retrouver son cadre immobile, puis le quitte à nouveau, et ainsi de suite. Entre deux coups se situe un grincement d'ossière, intermittent et plaintif. Merde alors. Elle fait un ramdam d'enfer, cette porte, non ? C'est le volet de bois de la lucarne qui bat. Est-ce que je l'avais seulement fixé ? J'aime laisser les choses aller leur train sans intervenir en quoi que ce soit. Qu'ils battent donc le volet, si ça lui plaît. Et il peut aussi bien se décrocher tout à fait et foutre le camp sur les dunes ou même aller se jeter à l'eau. Quel vent et quel ciel ! Oui, tout se bouscule, songe-t-il dans son demi-sommeil. Pendant le jour, c'est du reste la même chose, c'est plein de sound and fury, et raconté par le sempiternel crétin baveux. Heureusement, le volet continue à grincer comme si de rien n'était. Je t'adore, volet qui grince, car ta voix me rappelle les chouettes du crépuscule, les villages apeurés, les bêtes endormies et la paille. Et que ces mots ronflent dans la nuit comme des rhombes. Et moi, que fais-je dans cette cambuse ? Je me trouve là pareil à un vieillard frileux. Il vante, c'est l'appel de la mer qui nous tourmente. Il vante, et le vent de la nuit est froid comme la mort. Ceci est une vérité vérifiable par chacun d'entre vous s'il se trouve, comme moi pour l'heure, seul, dans une chambre, ou une mansarde, ou un arrêt d'autobus, plutôt d'autocar. Le dernier est-il passé ou parti ? Se remémorant et parlant dans ses gencives, mâchonnant tous ces mots qui se suivent, se ressemblent et vont finir par aller se perdre ou se cogner contre les murs de la mansarde, ou de la chambre, ou bien à l'arrêt des tramways. Et bien qu'il soit enveloppé de couverture, ne possédant du reste aucun pouvoir calorifique ou l'ayant perdu pour d'obscures raisons. J'ai tout à l'heure croisé deux femmes des îles, des Tahitiennes, il me semble. Leur visage était noir comme la suie. Elles semblaient prêtes à sortir du mur, à vouloir traverser cette grande pièce grise, à moins que ce ne soit une plage en hiver, ou peut-être se tenait-elle là simplement sans nulle intention de bouger? C'est ce que je me dis à la réflexion. Et je suis passé devant elle, les ayant à peine remarquées, comme je m'en repens. Mais il est sans doute trop tard pour le repentir. J'ai monté des marches. Je ne les ai pas comptées. J'ai dû laisser mon clou sur la dune, si tout cela est vrai. J'entends l'océan qui se brise sans trêve dans la chambre ou au dehors, je ne sais plus, ou plutôt je ne me rappelle plus très bien les épisodes qui ont précédé. Il y a eu un éclair, et puis la dérive dans ce sac spongieux qui sent la naphtaline, et aussi quelque chose, une odeur de vieux, de rance, de complètement abandonné. Ce bistrot où je me trouvais, c'est si loin. Il y avait là un homme, il racontait des histoires dont les personnages portaient des noms barbares. Je ne m'en souviens plus, sinon qu'ils étaient aussi anciens que cette mer et que ce rivage. De hauts et puissants seigneurs, voilà ce qu'ils étaient, s'il fallait l'en croire. Je remisais mon zinc dans une petite rue latérale en terre battue où grattaient et gloussaient des poules. L'une d'entre elles, la patronne l'appelait collier d'or. Et c'était, paraît-il, une phénoménale pondeuse. Elle était familière. Cette poule grise avec ses plumettes jaunes autour du cou. Elle sautait sur la machine et picorait les miettes de pain que j'y avais semées à son intention. Après quoi, elle s'envolait dans un froufrou maladroit et rejoignait les autres poules sur la tête de la garde barrière. Ça n'a pas l'air possible, et cependant, vrout, c'est vrai. Et la poule piquait dans le chignon et en faisait sortir, comme un prestigiditateur, des bibelots fragiles en porcelaine, des tasses enchantées dont le café ne tombait jamais, quelle que fût leur position, mais restaient là pour mon plaisir dans leur transparence brûlante. Une averse de petites cuillères en vermeil, des cubes de sucre qui explosaient sans bruit et de grosses gouttes de lait en forme de femme nue que la terre buvait dès qu'elle touchait le sol. Les cheveux de la garde barrière étaient une maigre pluie grise sur ses épaules. Pierrick le Nabot aidait à la manœuvre, si bien que le soir venu, il avait en poche suffisamment de monnaie et pouvait s'attarder au café du départ, devant un verre de rouge, plus rarement un verre de blanc, et par les chaleurs en compagnie d'une chope à forte cannelure dans laquelle la bière tiédissait et voyait sa mousse progressivement fondre et disparaître. C'était l'été.
Trop
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revoici ensemble après l'instant musical pour le dernier extrait du texte de Yves Eliouet, Falrund. Je suis ce navire qui s'en va, balise, balise. Il court sans hâte dans la nuit, il va se dissoudre dans les ombres de la haute mer, ce navire. On l'entend à peine. On ne l'entend pas plus qu'on entend une abeille cherchant l'issue d'une maison dans laquelle l'été, une fenêtre ouverte puis refermée, l'ont retenue prisonnière. Il glisse en silence sur tous les jours déchus. J'ignore du côté de quelle rive vaniller. Et toi ? Tu étais là. Les boucles de tes cheveux de part et d'autre du visage. Tu étais là un peu ambré, oui, c'est le mot juste, un peu grandi et joli. Tu étais, oui, c'est le mot. Et affectueusement, je te regardais, ou plutôt, je te contemplais. Joli, oui. Tes lèvres un peu épaisses, doucement et souvent entr'ouvertes sur la salive de tes dents. Entr'ouvertes, salive des dents. Fils sur l'émail, fils perlé, et le soleil faisait scintiller le temps d'un mot ou d'un rire ses dents de faunesse. Je m'en souviens comme je me souviens du balancement léger de tes hanches, à peine. Oh! À peine marqué, et cependant. Sans doute, sans aucun doute, prémédité, ce déhanchement des herbes dans la rivière aux rives peuplées de stridulations et de trilles de la courtilière. Et tes fesses déjà pleines de jeunes filles que la virginité agace comme une dent qui pousse mal. Tu étais peuplé de grains de beauté sur lesquels je posais ma bouche plus tard, même si cela n'est plus une affaire d'imagination. Certes, le soleil tapait dur et son rayonnement funèbre éclairait la campagne coupée du trou d'ombre des haies. Un avion bourdonnait à des hauteurs vertigineuses. Je pressais la paume de mes mains sur tes flancs. Et le long de la corbeille d'osier de tes côtes sous la peau tendue. Dans les herbes, les sauterelles étaient des petites broches d'écailles. Oui, c'était l'été. La route s'enroulait au loin autour du château perclus et parfois un camion faisait voler haut un nuage de poussière. Il planait très haut et retombait sans hâte, poudrant les ronces qui s'entrecroisaient là dans le giron de la forteresse blessée. Ou encore, ce pouvait être la pluie interminable de fin d'été, amollissant les chemins. Plaques de chocolat fondant dans un grésillement léger, grésillement de la pluie au fond d'une casserole sous laquelle les flammes du gaz se courbent noblement vers le haut, couronne. Des après-midi entiers sur le lit, aux draps froissés, ta peau imprégnée des odeurs de l'amour. Et par la fenêtre lavée de pluie se déformait la tête de pierre, farouche et altière, tapissée de lierre vernissé. au loin l'eau s'introduisant dans les interstices entre les blocs des joints dans une bave jaunâtre parfois, ou bien grisâtre et mêlée de gravier minuscule s'accrochant un instant aux mousses brunes des parois et même s'y nichant jusqu'au prochain assaut de l'eau ruisselante. Jalouse. Le rivage et sa suite de courbes d'où émergeaient les échines bleues des toits et des pignons caractéristiques blancs, prolongés par le parallélépipède de la cheminée non sommée de poterie. La mer grouillante et calme, traversée de risées, et quelquefois un haut fond proche amenant un vaste lit de sable presque sous la surface. L'éclairant, lui donnant cette nuance laiteuse bordée du bleu transparent des siphons de bar. Tu léchais au bout de tes doigts le sucre cristallisé de fruits confits dont la boîte bâillait, découvrant une langue multicolore foncée de papier plissé. Et c'était une espèce de dentelle de papier à laquelle la friandise adhère parfois plus qu'il ne serait souhaitable et qu'elle macule peu ou prou d'une tache sucrée de couleur et d'épaisseur variable. Une croix se voyait à proximité. Elle s'élevait massive et fruste à partir de la plateforme que lui constituait une manière de pyramide à degrés tronqués, posée elle-même sur un cube de pierre taillé dans le granit, assemblé sans ciment d'aucune sorte et dont les bords étaient si bien joints qu'il était à peu près impossible d'enfoncer entre eux une allumette ou même quelque chose de plus résistant, une de tes épingles à cheveux par exemple, ou encore la plus petite lame d'un canif de nacre qui à l'époque ne me quittait guère. J'avais alors l'impression qu'il me serait à jamais impossible de voir les jours se rapprocher. Ainsi les soufflets d'un accordéon une fois qu'il a expiré sa dernière note et dont on rassemble les deux claviers à l'aide d'une languette de cuir que l'on boutonne. Et le musicien s'en va avec cette espèce de bosse produite par l'instrument. On pourrait le prendre également pour un sac d'alpiniste maintenu de guingois à l'aide d'une seule bretelle. La nature ne semblait pas indifférente, au contraire. Depuis, elle l'est devenue, et cette indifférence, cette immuabilité, tout en étant proportionnelle à l'idée qu'on peut s'en faire, la Terre elle-même est appelée un jour à n'être plus qu'une planète morte, possède une signification particulièrement accablante. Oui. Le grand dieu Pan régnait encore, et son sang irriguait mes artères et mes veines. Ça a bien changé. Et toi, tu étais là comme tu l'es encore dans ma mémoire, plaine ouverte et rivière méandre, lame de serpe et de faucille, s'engendrant les unes les autres sans solution de continuité vers la grande gueule salée aux dents froides. Tu ne pouvais pas être tout à fait une plaine. Mais je me rappelle bien d'une rivière et son lacet de mercure jeté dans le paysage. Tout bouge. Une grande lampe votive s'allume dans la situation reptilienne de mon crâne. Elle brûle l'os et la peau et le cheveu comme si c'était des meubles. Et toutes les chambres d'écho de la pensée s'embrasent, cuirassées, promis au prompt naufrage. D'abord la proue s'enfonce. Elle va chercher la mort à des milles de profondeur et tout le navire se prépare fébrilement à disparaître, le temps de deux ou trois coups de fusil dans la campagne que la chasse investit, le temps de deux ou trois verres bu avec le recueillement inquiet de l'insomnie, agité de tics que je suis. Et puis les caissons de l'armure, troués l'un après l'autre, cèdent. Le vaisseau bascule et s'enfonce alors que les fourmis continuent à courir et à gesticuler et à tomber le long de ses flancs noirs, en grappe, se défaisant grain à grain à toute vitesse. Autour les chaloupes que l'on a eu le temps de détacher de leur bossoir et de mettre à flot. De détacher, de mettre à flot. et le sommeil a fini par se percher sur le faîte crevassé de la citadelle. Ton sommeil et sa subtile odeur. Nocturne habitée de mouvements musculaires et des cris que parfois l'on pousse en rêve, et l'odeur aussi se disperse au vent qui fait aller ses gants d'air au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et il demeure toute la journée sur ses fortes pattes écailleuses. Ses plumes se gonflent autour de son cou et son œil roux t'observe quand tu cours nu sur le long de la jetée, les lèvres ouvertes sur la saline étincelante de tes dents jusqu'à ce que le crépuscule. Il reste là insensible au changement du temps, vers le soir, vers la nuit prochaine. En tâtonnant, il rencontre le cylindre froid de la bouteille, pas encore vide, et se cautérise la gorge avec une formidable lampée. Je croyais que j'étais dans ma chambre, sacré bon Dieu, que fais-je ici? Le ciel est à présent dégagé et le croissant de la lune est passé de l'autre côté du toit à l'est. Oui, tu courais sur la jetée, je te suivais et feignais de jouer à je ne sais quel jeu de chat perché. Au bout, le phare dressait sa colonne grise et rude et les grandes lentilles concentriques de son feu luisaient pareilles à d'énormes yeux d'insectes ou d'idoles. Un homme, âgé et poussif, probablement atteint d'emphysème, et répondant au nom de Monsieur Louis, se promenait quelques jours après ce que je viens de narrer sur ce rivage, où il ne vit à peu près rien, sinon un ébouli de roches, et non loin d'eux ce qui lui parut être la ruine d'une petite demeure rustique, percé d'une ouverture fort abîmée, donnant sur l'Atlantique. Voici, nous avons donc terminé cette semaine ce voyage, cette errance dans le texte de Yves Eliouet, Falroun. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre texte en ces instants de confinement où la lecture est bien nécessaire. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.